Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, appelez-nous, exprimez-vous, comme tous les jours à cette heure-ci, RFI vous donne la parole. D'abord, évidemment, pour poser vos questions à la rédaction, vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien, appelez-nous et surtout, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter, faites-le tout au long de la journée, on a besoin forcément de préparer cette première partie, de contacter nos experts ici au sein de la rédaction, mais aussi nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde, un seul numéro de téléphone, 33 9 693 693 70 et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Et puis dans 30 minutes, vous le savez, nous sommes vendredi, ce sera donc la libre antenne, vous commenterez l'actualité de votre choix, les sujets ne manquent pas, je jette un coup d'œil sur les appels que nous avons reçus depuis ce matin, il y a des réactions évidemment sur l'attentat à Tunis, le refus des rebelles du nord du Mali de signer l'accord de paix suscite beaucoup beaucoup de commentaires au standard, la grogne sociale au Togo mais aussi au Gabon, la libération des militants sénégalais et burkinabés en République démocratique du Congo. Bref, tous les sujets nous intéressent, où que vous soyez, à Paris, en France, à l'étranger, 33 9 693 693 70. Vos questions donc, première question, Ralph est avec nous, bonjour Ralph.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Alors vous êtes à Libreville au Gabon et vous avez une question concernant Pascaline Bongo, la sœur du président gabonais.
Oui Juan, j'ai appris sur les antennes de RFI que Pascaline Bongo doit être entendue par le tribunal des grandes instances de Paris pour avoir mis en difficulté financière une entreprise française. À ce sujet j'ai des questions. Que s'est-il passé entre Pascaline Bongo et cette entreprise? Pourquoi le patron de cette entreprise a-t-il accepté que Pascaline accumule autant de factures impayées? Et la toute dernière, que risque-t-elle dans cette affaire?
Oui, c'est vrai qu'une société française réclame à la sœur du chef de l'État gabonais plus de 540 000 euros. Du coup, eh bien, cette entreprise se dit aujourd'hui au bord de la faillite. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Ralph.
Merci d'être avec nous, journaliste au service France d'RFI. Vous suivez cette affaire. Pascaline Bongo, qui d'ailleurs devait comparaître cette semaine, mardi, devant le tribunal de grande instance de Paris. Le procès a finalement été renvoyé au mois de mai. Que s'est-il passé entre la sœur du chef de l'État gabonais et cette entreprise française?
Alors, en fait, c'est une relation commerciale qui a commencé en 2008. De 2008 à 2012, Pascaline Bongo passe un certain nombre de commandes à Bloomendale, lui demande d'acheter des choses pour elle en France, de les faire parvenir à Libreville. Et sur ces quatre années-là, la relation commerciale est classique, elle se passe relativement normalement, les factures sont payées. À partir de 2013, c'est là que finalement commence le problème. Pascaline Bongo ne paie plus les factures que lui sont envoyées par Bloomendale. Bloomendale dit avoir ainsi 80 factures impayées réparties sur l'année 2013 et le début de l'année 2014. Alors, ce que dit Pascaline Bongo, la défense, parce que Pascaline Bongo n'était pas là à l'audience en début de semaine, celle qui a été renvoyée, mais ce que dit la défense de Pascaline Bongo, c'est que en fait, ces factures qui ont été adressées à elle, enfin à la sœur du président gabonais, ne sont pas en fait imputables à Pascaline Bongo, mais sont imputables à une entreprise gabonaise qui s'appelle Dream Team, que Pascaline Bongo aurait présenté à Bloomendale, et elle aurait fait en fait l'intermédiaire, et elle dit bah j'ai fait l'intermédiaire dans une relation commerciale entre Dream Team et une autre société française, en l'occurrence Bloomendale, c'est pas à moi de payer les factures. Bon, ce que répond Bloomendale, c'est de dire oui mais attendez, Pascaline Bongo apparaît dans les statuts de la société Dream Team et les commandes venaient toujours de Pascaline Bongo.
Des commandes alors à tort ou à raison, elles n'étaient pas forcément bonne et due forme, puisque tout se passait par SMS.
C'est par SMS, effectivement, que l'entreprise Bloomendale enregistrait des commandes venant de Libreville et donc de Pascaline Bongo. C'est vrai qu'ils fournissent pas de devis, ils fournissent pas de bons de commande en bonne et due forme signés, etc. Mais ils disent oui, mais jusqu'à présent, tout s'était bien passé. Pendant 4 ans, il n'y avait pas eu de soucis. Elle nous envoyait des SMS, on exécutait la commande, elle payait. Donc, pourquoi est-ce que d'un seul coup, tout cela change? Et donc, c'est un peu là le débat. Après, la défense de Pascaline Bongo dit aussi Dream Team est prête à payer. Dream Team reconnaît que c'est à elle de payer ses factures. Et elle est d'ailleurs arrivée à l'audience mardi matin avec un chèque en c'est en gage de bonne volonté, un chèque de 100 millions de francs CFA, ce qui représente environ 150 000 euros. Donc c'est déjà une bonne partie de la somme réclamée par Blumenthal. Sauf que ce chèque libellé en francs CFA n'est pas encaissable en France. Donc du coup, la présidente a renvoyé le chèque en disant faites parvenir un virement en euros.
Donc, affaire à suivre. Que risque Pascaline Bongo dans cette affaire, nous demandait Ralph.
Alors, elle ne risque pas véritablement grand-chose. C'est une procédure civile, c'est pas une procédure pénale. Il y aura pas de sanctions. Finalement, tout ce qu'elle peut... Enfin, la seule chose qu'elle risque, c'est d'être condamnée à payer la somme que réclame Blumenthal. Donc, c'est 540 000 euros, en gros. Et si, éventuellement, elle ne veut pas payer alors qu'elle a été condamnée à payer, on pourrait, mais là, on est sur un scénario...
fiction.
Encore vraiment très fiction et assez lointain. Elle pourrait voir un certain nombre de ses biens qu'elle a en France confisqués au profit de la société Blumenthal.
Affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup, Guilhem Delteil, d'être venu nous expliquer cette affaire. Ralph, merci de nous avoir appelés. Bonne journée au Gabon. Vous souhaitez d'ailleurs, pourquoi pas, commenter cette affaire. N'hésitez pas, la libre antenne, dans 25 minutes maintenant, 33 9 693 693 70. Guillaume Thibault du service Afrique est à mes côtés. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Des questions sur le Burkina Faso. Vous y étiez il y a encore quelques jours. Exactement. Sur place. Sidi, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous,
bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez des questions.
Bonjour à Guillaume Thibault.
Bonjour. Voilà, Guillaume qui est à mes côtés. Vous avez des questions concernant le Burkina Faso et la perspective de l'élection présidentielle du mois d'octobre.
Oui, effectivement, j'aurais appris sur RFI que Djibril Bassolépé s'est présenté aux élections présidentielles alors que c'est un proche de Blaise Compaoré.
Oui.
Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait ça, qu'est-ce qui a pu arriver pour que Djibril Bassolé, un ancien très proche de Blaise Compaoré, puisse se présenter aux élections présidentielles.
Ouais, alors Guillaume Thibault, c'est vrai que l'ancien chef de la diplomatie sous Blaise Compaoré devrait officiellement déclarer sa candidature à l'élection présidentielle dans les prochaines semaines. Sur le papier, rien ne peut empêcher Djibril Bassolé de briguer la magistrature suprême.
Complètement, ni la constitution, ni une loi, rien n'interdit en effet à Djibril Bassolé d'être candidat à la présidence. Pour lui, posait un problème juridique constitutionnel. Il devait officiellement prendre ses distances avec l'armée. Il est général de gendarmerie. C'est chose faite. Depuis le début de la semaine, le président en personne, Michel Cafando, et le premier ministre Isaac Yacouba Zida ont signé le décret. Monsieur Bassolé a obtenu sa disponibilité de l'armée pour 2 années. Suite à cette décision, lors d'une conférence de presse, l'ancien ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs fait remarquer qu'il était détaché de l'armée depuis 1999, qu'il n'exerçait aucun commandement depuis cette date. Techniquement, donc rien ne bloque cette probable candidature.
Enfin, il y a néanmoins, Guillaume, 2 points qui font débat aujourd'hui au sein de la société burkinabé, et c'est évidemment pour cela que nous appelle Sidi. D'abord, il y a une partie de la population qui dit l'armée doit rester dans les casernes.
Oui, on parle de démilitarisation de la vie politique depuis l'indépendance. L'armée est en effet toujours au cœur des institutions. Les burkinabés vivent, entre guillemets, avec cette armée, et depuis la révolution d'octobre dernier, ce besoin, cette envie de séparer pouvoir politique et militaire, elle est en train de naître. La politique est un facteur qui divise la grande muette, a déclaré récemment Maître Guillaume Vécam, le porte-parole du Ballet Citoyen. L'avocat ajoutait, il suffit qu'une faction de l'armée ne soit pas d'accord avec une autre pour tenter de lui reprendre le pouvoir par les armes. Sur cette polémique, Djibril Bassolé, il est très clair, les militaires sont des citoyens comme les autres, qui ont exactement les mêmes droits. Il vaut mieux, dans ces conditions-là, s'en tenir au texte et à la Constitution. Fin de citation.
Ouais, et Djibril Bassolé n'est d'ailleurs pas le seul militaire à vouloir se présenter à l'élection présidentielle. Il y a 2 noms qui reviennent, celui de Jean-Baptiste Natama et celui de Yacouba Ouédraogo. Tous les deux sont des colonels.
Oui, et c'est aussi cette multiplication des candidats venus de l'armée qui énerve, dans le fond, les Burkinabés. C'est un fait assez récent. En début de semaine, les organisations de la société civile ont adressé un courrier au gouvernement burkinabé pour dénoncer ces candidatures de militaires. Si on revient 4 mois en arrière, après la chute de Compaoré, ce sont les mêmes organisations de la société civile qui sont allées chercher un certain Isaac Yacouba Zida, militaire, lieutenant-colonel du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, pour assurer la gestion du Faso le temps de mettre en place la transition. Monsieur Zida est actuellement Premier ministre.
Ouais. Alors, démilitarisation donc de la vie politique. Et puis, il y a un autre point qui fait débat. Là aussi, il y a une partie de la population qui veut exclure du jeu politique les membres du CDP, donc les membres du parti de l'ancien président Blaise Compaoré.
Ouais, souhaite les exclure à toutes les élections. Ce ne sont pas les seuls. La société burkinabé souhaite aussi exclure tous ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37 en octobre dernier, fameux article qui limite à deux le nombre de mandats d'un président au Burkina. Proche du clan Compaoré, Djibril Bassolé était membre du CDP. Mais si les autorités de transition ont un temps, en décembre, suspendu ce parti politique, il a été depuis rétabli. Certains de ses membres organisent à nouveau des meetings, des réunions avec leurs sympathisants. Pour Léon Skoné, le président du directoire du CDP, il est impossible d'interdire le parti et de l'empêcher de se présenter aux différentes élections, d'être sur la scène politique. Nous n'accepterons jamais cela car c'est contraire à la loi. Voilà sa dernière déclaration sur ce dossier il y a deux jours. Politiquement, la transition qui souhaite aussi faire avancer la réconciliation nationale n'a aucun intérêt à faire interdire ce parti. Le retour de bâton pourrait être terrible. Après, il n'est pas impossible que les enquêtes en cours, enquêtes sur les dossiers économiques, sur la corruption de l'État, sur les vols d'argent, aboutissent dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ce qui pourrait ainsi, certains caciques du régime Compaoré pourraient être interpellés, peut-être jugés, ce qui pourrait les rendre inéligibles. On en est loin. Les procédures judiciaires sont très complexes et très longues. Les enquêtes sont très longues. Sur notre antenne, le président Kafando a aussi expliqué et indiqué que la moindre menace sur la transition dans le pays, comme venant de l'extérieur, serait immédiatement sanctionnée. C'est un message, je crois, très clair adressé à tous ceux qui ne joueraient pas le jeu démocratique.
Ouais, Sidi, on a répondu à votre question.
Oui, merci Juan, merci à Guillaume Thibault.
Eh bien, merci à vous de nous écouter. Ah, je vous vois sur ma petite fiche.
Bon courage dans les camps de réfugiés.
Oui, que vous nous appelez du camp de réfugiés de Mentao.
Effectivement, je vous appelle depuis le Mentao dans les provinces de Soum, les plus grands qui habitent le plus nombre de réfugiés au Burkina Faso.
Eh bien, merci de nous écouter, c'est au nord du pays, hein.
Oui, effectivement.
Bonne journée, bon courage sur place. Merci Guillaume Thibault.
Bonne journée à tous.
D'être venu. Et si vous souhaitez réagir justement à ce débat en cours en Burkina Faso, faut-il, oui ou non, exclure du jeu politique les dignitaires de l'ex-régime Compaoré? Eh bien, rejoignez-nous. Là aussi, c'est un sujet qu'on peut aborder. 33 9 693 693 70. Guillaume Thibault.
Comment démilitariser la aussi. Société burkinabé?
Ben voilà, c'est... la question est posée par Guillaume Thibault et on en parle, si vous le voulez, évidemment. Dans 20 minutes sur l'antenne d'RFI. À bientôt Guillaume, 9h22 à Paris. On a reçu plusieurs questions sur le Brésil après ces manifestations dimanche dernier. Il y avait dans les rues des principales villes du pays entre 1 million et 1 700 000 personnes, selon les sources. Bonjour Issa.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous nous appelez de Niamey, on vous écoute.
Oui, la présidente brésilienne Dilma Rousseff s'est fait réélire sous le thème de campagne de lutte contre la corruption. Et à peine réélue, elle s'est fait rattraper par un scandale de corruption au sein de la société brésilienne du pétrole Petrobras. À ce sujet, j'ai deux questions. La première question est de savoir, est-ce que Dilma Rousseff, il y a une preuve d'implication de Dilma Rousseff dans le scandale. Et la deuxième question... et de savoir si l'ouverture de cette enquête est-il un signe de fin de l'impunité.
Alors, c'est vrai que Dilma Rousseff, son gouvernement, est éclaboussé par un vaste scandale de corruption, le scandale Petrobras. Adriana Moïses, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Issa.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne d'RFI. C'est vrai que quand on regarde la liste des personnes poursuivies en ce moment par la justice dans le cadre de cette affaire, ça fait un peu peur, il y a quand même 49 personnalités politiques.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme, des sénateurs, des députés, des gouverneurs.
D'ex-gouverneurs, des sénateurs, des députés, la majorité, hein, ce sont des députés et aussi de ex-dirigeants politiques.
Hein. Et Dilma Rousseff est-elle directement inquiétée, citée dans cette affaire?
Non. Il n'y a pas des preuves, en répondant à Issa, il n'y a pas des preuves concrètes, mais l'opposition et la plupart des médias soupçonnent son implication. Le procureur général a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une enquête, comme vous venez de dire, 49 personnes, il y en a peut-être, il y en aura d'autres, mais Dilma a été épargnée. Par manque d'éléments, les procureurs, après avoir examiné donc les témoignages de l'opération policière Lava Jato, comme on dit au Brésil, il a dit il n'y a rien de concret, aucun indice qui puisse constituer un élément pour justifier une enquête contre Dilma.
Ouais. Enfin, on rappelle en deux mots ce scandale, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, la compagnie Petrobras est accusée d'avoir versé des pots de vin à la classe politique, essentiellement au parti de gauche.
Par moyen de contrats surfacturés. Ouais. La distribution, elle était pour plusieurs partis, pas seulement des partis de gauche.
Et vous avez raison de le préciser, mais on peut imaginer qu'une personnalité comme Dilma Rousseff et l'impact qu'elle a sur la scène politique brésilienne puisse ignorer toutes ces pratiques pendant autant d'années.
C'est ça la question, c'est pour ça la méfiance. Je voudrais encore ajouter que quand le procureur général il a demandé l'ouverture des enquêtes à la Cour suprême, il a aussi accepté l'argument que de l'immunité du président en exercice, qui est prévue par la Constitution brésilienne. Donc, il a dit qu'il n'y a pas d'indice suffisant. Et aussi, Dilma, elle est protégée par l'immunité du président en exercice, garantie par là, jusqu'à la fin de son mandat. La question, c'est d'où vient-on de méfiance? Donc, selon un ancien haut responsable de Petrobras, les partis des travailleurs auraient reçu au moins 200 millions de dollars non déclarés qui auraient servi à financer la première campagne de Dilma en 2010. Nuance, les partis de Dilma, pas Dilma directement. C'est comme Sarkozy et l'affaire Big Malion en France.
C'est l'UMP qui est visé et pas directement l'ancien président.
L'ancien président. Donc, avec Dilma, c'est à peu près pareil. On peut ajouter que pendant 2 ans, de 2003 à 2005, comme ministre de l'énergie, Dilma a été aussi présidente du conseil de direction de Petrobras. La question, comme vous avez posé, c'est est-ce que, même si elle n'a pas été nommée par les parquets, est-il possible qu'elle n'ait pas été au courant d'un système de corruption aussi étendu à Petrobras, étant présidente du conseil de l'entreprise? C'est en dehors de son mandat. Hein. C'est 2003 à 2005.
La justice, en tout cas, devra répondre à cette question. En deux mots, Adriana Moïse, est-ce qu'on assiste à la fin de l'impunité aujourd'hui au Brésil? Parce qu'il y a eu quand même énormément de scandales de corruption ces dernières années.
C'est la première fois au Brésil que des dirigeants des grandes sociétés de BTP sont en prison pour avoir justement surfacturer les contrats signés avec Petrobras. Il y a eu le versement de pots de vin à des dizaines d'hommes politiques, donc les sommes détournées atteindraient 4 milliards de dollars sur 10 ans. Les symboles des hommes, des grands, des milliardaires en prison, c'est très fort. Ah oui. Mais jusque-là, dire que c'est la fin d'impunité, il manque un bout de chemin.
Yanko nous rejoint, bonjour. Oh là là, Yanko, attendez, vous êtes à Strasbourg, vous êtes en France, on a l'un des meilleurs réseaux de téléphone au monde et on vous entend comme si vous étiez à des kilomètres du téléphone. Yanko ?
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Ah, bah voilà, on vous entend nettement mieux, on vous écoute.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Vous l'avez dit, il y avait 1,7 million dans la rue au Brésil la semaine dernière. C'est peu à l'échelle du Brésil, mais c'est quand même une des manifestations les plus importantes depuis la réélection de Dilma. Donc je voudrais savoir si des mesures concrètes ont été prises depuis pour répondre à la colère des manifestants.
Alors, y a-t-il eu des mesures annoncées? La réponse est oui, un paquet de mesures même.
Oui, un paquet de mesures. Mercredi dernier, la présidente a annoncé une série de mesures anticorruption, telles que criminaliser la double comptabilité pratiquée par les partis politiques en période électorale.
Alors, ce qui est curieux, c'est que ça n'existait pas. C'est toujours pas condamné aujourd'hui au Brésil. C'est-à-dire qu'un parti politique peut avoir une double comptabilité.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, oui, c'est pas un délit. Ouais. Ça, c'est pas un délit. Les gouvernements souhaitent aussi une nouvelle loi permettant de poursuivre pénalement les personnes ne pouvant justifier l'origine de leur fortune et de confisquer aussi leurs biens litigieux qui seraient vendus aux enchères. Ça, c'est une autre mesure. Et Dilma veut également que tout postulant à une fonction publique de responsabilité a un casier judiciaire vierge, ça veut dire sans sanction judiciaire. Et là, il faut rappeler la loi du casier vierge en brésilien, on dit loi ficha limpa, adoptée il y a déjà 5 ans. Elle est appliquée aux politiques, aux hommes politiques, mais pas aux dirigeants des sociétés publiques. Ah. Donc, ces projets-là, il veut endurcir cette loi et l'appliquer aux fonctionnaires, par exemple.
On avait d'autres questions, d'autres auditeurs en attente. Malheureusement, voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup d'être venu répondre à Adriana Moisès. Et puis, on rappelle qu'il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue au Brésil. Ce sera le 12 avril. Vous aurez peut-être l'occasion à ce moment-là de revenir. D'accord ?
Oui, avec
merci
plaisir.
À vous.
Merci.
Restez avec nous dans un instant, le journal. Et puis, dans 10 minutes, évidemment, la libre antenne. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.